François Bernard.
Bonjour ou bonsoir et merci de nous accueillir pour ce rendez-vous quotidien sur l'environnement. En deuxième partie d'émission, nous irons faire un tour en forêt africaine pour parler du commerce illégal du bois. Au programme, un reportage et deux invités.
Un produit peut être acheté au Vietnam, je dirais. Donc on est là au niveau du fournisseur, mais alors que le bois récolté, lui, vient du Cambodge ou peut-être même du Cameroun. Et si vous vous retrouvez avec une table dont vous avez le plateau qui est fait dans un bois qui venant du Cameroun, alors que les pieds sont faits en un bois venant du Cambodge, vous avez là un problème d'identification de l'origine du bois.
Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes, après quoi Dominique Dezonnet dans TerraTech évoquera l'échange entre les pays émergents et des acteurs de l'innovation agricole. Mais tout de suite, notre invité pour commenter l'actualité environnementale, Olivier Braunstefer, est directeur des programmes à CARE France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on passe en revue l'actualité, c'est la coutume dans cette émission. Le groupe EDF a été mis en examen hier pour une affaire d'espionnage informatique présumée de l'organisation écologiste Greenpeace. L'ordinateur d'un des cadres de Greenpeace aurait été visité. EDF s'estime victime de l'excès de zèle d'une société qu'elle avait chargée d'une simple veille des actions menées par Greenpeace et demande donc l'annulation de cette mise en examen. Comment vous réagissez-vous à cette nouvelle ?
Bah, tout d'abord, il est toujours bon que la justice se fasse et que des enquêtes soient menées. Toute l'approche de CARE dans ses axes programmatiques, c'est justement d'avoir une approche basée sur les droits au sens large. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait positif. À côté de ça, c'est un petit peu délicat parce qu'il s'avère que nous, au CARE France, nous travaillons avec les deux organisations. Nous travaillons avec Greenpeace par rapport justement aux problématiques environnementales. Nous sommes co-signataires d'un appel qui s'appelle l'ultimatum climatique, dont Greenpeace et le WWF sont les meneurs, les leaders. Et à côté de ça, nous travaillons aussi avec EDF comme avec d'autres groupes industriels parce que nous intervenons énormément dans le champ de ce que nous appelons la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et le but, c'est de travailler avec ces entreprises justement pour qu'il y ait une meilleure prise en compte des aspects sociaux, des aspects environnementaux dans leurs actions. Et donc, nous essayons de l'intérieur de faire évoluer ces groupes vers des approches qui puissent en même temps contribuer à l'objet social de CARE, c'est-à-dire lutter contre l'extrême pauvreté.
Très bien, vous le mentionniez il y a un petit instant, vous avez signé, CARE a signé l'ultimatum climatique, donc exigence du président français, on va dire un engagement fort pour les négociations à venir contre le réchauffement climatique. Alors CARE lutte contre la pauvreté, contre la précarité, pourquoi le réchauffement climatique est-il une priorité de votre action ?
Parce que sur le terrain et auprès des populations avec lesquelles nous travaillons, nous vivons déjà, nous subissons directement, et surtout les populations bien évidemment, l'impact de ces changements climatiques. Ça fait bien sûr de nombreuses années que nous sommes confrontés à ces problèmes, mais c'est devenu saillant il y a 2-3 ans, lorsque suite à des consultations qui ont été faites au sein du réseau sur un thème de plaidoyer global, quasiment tous les pays ont exprimé le souhait que CARE travaille beaucoup plus sur la lutte contre les changements climatiques. Les populations avec lesquelles nous travaillons le subissent, on peut dire, de manière chronique par rapport à des problèmes, par exemple, d'accès à l'eau ou de perturbation des rythmes agricoles, mais aussi, et c'est encore bien sûr beaucoup plus flagrant, par rapport à la multiplication des catastrophes climatiques. Mmh. Nous travaillons dans les Caraïbes, nous travaillons à Madagascar, nous travaillons en Asie du Sud-Est, au Bangladesh, en Inde, etc., et la multiplication en particulier des cyclones, mais aussi des successions de plus en plus rapprochées de phases d'inondations et des sécheresses, pour nous sont une manifestation évidente de ces changements climatiques. Et donc, ces populations, les plus pauvres, les plus vulnérables, subissent encore plus fortement ces catastrophes. Donc, c'est de notre mission de les aider à y faire face, mais aussi de travailler en amont sur des aspects de plaidoyer pour essayer de faire évoluer les politiques de lutte contre les changements climatiques.
Mais de l'avis général, il est probable que les objectifs de réduction ne seront pas atteints, tout le monde le dit. Une de vos missions, c'est d'intervenir en période de crise. Alors comment vous préparez cette crise-là ?
Alors, il y a effectivement deux champs d'intervention. D'une part, tout ce qui est prévention, réduction des risques de catastrophe. Nous avons des projets qui sont encore en particulier financés par la Commission européenne, qui permettent d'aider les populations à faire face et atténuer l'impact de ces catastrophes. Donc, par exemple, on va aider des communautés à s'organiser, à mettre en place des plans d'urgence, des plans d'évacuation, des plans de premier secours, pour que s'il y a une catastrophe, elle puisse mieux y résister et mieux éviter surtout qu'il y ait des morts. À côté de ça, on intervient aussi bien évidemment dans l'urgence elle-même pour faire en sorte d'atténuer les souffrances des populations lorsqu'elles sont confrontées aux catastrophes. C'est intéressant de voir que dans différents pays, on voit bien un petit peu le résultat de ces politiques de prévention et de réduction des risques. Bon, par exemple, Cuba, la saison cyclonique dernière, comme vous le savez, a connu plusieurs, de mémoire, quatre ouragans, donc de catégorie 4 ou plus, et il n'y a eu que 3 morts sur l'ensemble de l'île. Donc bien sûr, les dommages matériels sont énormes, mais les vies ont été épargnées. Le Bangladesh est pareil, c'est un pays qui bien sûr a malheureusement une très longue expérience des cyclones, c'est un pays avec une densité de population très très élevée, et pourtant les derniers cyclones, même s'ils ont eu un impact dévastateur, et même s'il y a eu parfois plusieurs milliers de morts, ça reste des chiffres qui sont très inférieurs par rapport à ce qu'on a vu par exemple en Birmanie, où là par contre il n'y a absolument aucune préparation, et bien au contraire il y a une volonté de ne pas du tout être confronté au problème.
Alors le réchauffement climatique est un chapitre fondamental, on le sait, de la préoccupation écologique du moment. On en a beaucoup parlé cette semaine. Je vais poursuivre avec vous le crible de l'actualité de ce vendredi. Et une fois n'est pas coutume, une séquence nécrologie, puisqu'on vient de disparaître Teddy Goldsmith, l'un des principaux fondateurs de l'écologie politique, créateur en 1969 de la revue phare de la pensée écologiste internationale, The Ecologist. Il a participé à la création du Green Party en Angleterre, aux premières campagnes écologistes en France, au premier sommet international sur l'environnement, c'était à Stockholm en 72. Un véritable pionnier donc, qui en 72 a publié « Changer ou disparaître », traduit en 16 langues, à l'origine de bien des vocations d'écologistes, dit-on. Est-ce que vous êtes, Olivier Braunstefer, de ceux que Teddy Goldsmith a influencés?
Oui, certainement. C'est vrai, tout de suite, on pense à l'évolution qu'il y a eu par rapport à l'écologie. Des progrès phénoménaux ont été accomplis. De nos jours, l'écologie n'est plus un sujet tabou. Il y a eu le Grenelle de l'environnement. On peut en discuter. Il y a une volonté politique évidente de le prendre en compte. Même la population, on l'a vu au moment des élections européennes, sont prêts à voter d'une manière assez conséquente pour des mouvements écologistes. Que de progrès accompli par rapport à, effectivement, 20-25 ans, où dès qu'on parlait d'écologie, on était perçu comme un éleveur de moutons dans le Larzac, ou comme un post-68-art. Et c'est vrai que les progrès sont notables, et c'est grâce à l'action de personnes telles que Teddy Goldsmith, qui ont réussi effectivement à faire porter ce débat écologique sur le devant de la scène. Néanmoins, bien sûr, on en est encore très loin, quand on voit en particulier maintenant l'enjeu monumental que représentent les changements climatiques, et la difficulté colossale au niveau politique de faire bouger les choses. Il y a une volonté affichée d'en prendre en compte, mais en termes de réalité, de décision politique, et on le voit hélas avec les réunions préliminaires à la conférence de Copenhague qui sont très laborieuses et qui pour l'instant n'aboutissent pas, on voit qu'on est encore très très loin d'une prise en compte réelle et sincère avec tous les enjeux que ça représente pour lutter contre ces phénomènes.
Olivier Braunstefer est directeur des programmes de CARE France. Il est notre invité ce vendredi. Voilà le chanteur californien Raphaël Sadiq dans l'émission de ce vendredi et sa chanson 100 Yard Dash. Olivier Brown-Steffer de l'ONG CARE est avec nous en direct. Je voudrais aller avec vous en Afghanistan où les sujets d'actualité ne manquent pas. On va rester quand même dans votre domaine d'intervention en évoquant le rapport publié par une ONG qui s'appelle Solidarité et qui a favorisé dans une région du centre du pays, le Banyan, la culture d'une variété de pommes de terre. Alors Gaylor Robin est agronome, il a participé à cette action. Je lui ai demandé si l'expérience s'avérait concluante. Écoutez.
En fait, traditionnellement, on avait affaire à des systèmes de production agricole très variés et très équilibrés. Depuis une dizaine d'années, en fait, depuis la chute des talibans, les marchés se sont ouverts. Et la culture de pommes de terre qui était déjà présente dans la zone s'est révélée être très porteuse. Beaucoup d'agriculteurs ont fait le raisonnement de « si je plante plus de pommes de terre, je vais gagner plus ». Et se sont mis à intégrer cette culture jusqu'à aujourd'hui, dans certains cas, arriver à faire de la monoculture de pommes de terre.
Et finalement, ça s'est révélé ne pas être une bonne idée.
Une première raison pourrait être tout simplement nutritionnelle. Dans la région de Bamiyan, on a des agriculteurs aujourd'hui qui ne cultivent plus de légumes, qui n'en mangent plus non plus, et qui ne cultivent plus de fourrage, puisqu'ils n'ont plus d'animaux. Donc on a des agriculteurs qui produisent cette culture pour la vendre, et qui mangent de moins en moins de légumes secs, et notamment le haricot et les lentilles, qui étaient très importants dans leur alimentation, et moins de viande aussi.
Est-ce qu'au final, vous pouvez imaginer que l'expérience est plutôt positive tout de même ?
Alors oui, l'expérience est très positive, puisqu'elle a quand même permis aux agriculteurs de développer leur système de production, d'avoir accès à un revenu grâce à la pomme de terre, parce que le gouvernement afghan aujourd'hui propose très peu de services d'appui à la production.
Est-ce que cette expérience pourrait être transposée dans une autre région d'Afghanistan en alternative à l'opium qui est un gros souci pour les autorités locales ?
Dans des zones d'Afghanistan, en tout cas moi où j'ai travaillé, j'ai pu observer en 2004 que la culture de l'opium qui s'est très fortement développée en 2003 et 2004 a permis dans un certain sens pour la première fois de gagner de l'argent, d'avoir accès à beaucoup de choses comme des vêtements, du savon et bien d'autres choses. Ce serait très difficile aujourd'hui de revenir en arrière, d'autant plus que ce genre de système de passage par l'argent s'est développé partout en Afghanistan. Donc on ne peut pas leur interdire de produire de l'opium aujourd'hui si on ne leur propose pas une solution alternative pour gagner de l'argent.
Et la pomme de terre peut être cette solution.
Voilà, la pomme de terre est clairement la solution, en tout cas dans le centre de l'Afghanistan, où les terres sont propices à cette culture.
L'agronome Gaylor Robin, travaillant pour l'association Solidarité, plus grande autonomie financière pour ces cultivateurs afghans, mais moins d'autosuffisance. Est-ce que c'est le risque auquel on est confronté quand on mène ce type d'action ?
Oui, bien sûr, c'est un problème classique entre l'agriculture de vivrière, qui permet aux familles de se nourrir, et l'agriculture, on va dire, de commerce, qui permet de vendre les produits sur le marché, gagner de l'argent, et même parfois de vendre à l'exportation. Nous y sommes constamment confrontés. Il y a de nombreux pays où nous avons des projets de sécurité alimentaire et des projets d'activité génératrice de revenus. Et, bien évidemment, il faut, dans la mesure du possible, essayer de trouver un équilibre. Équilibre entre cette agriculture destinée aux besoins locaux qui aussi doit être diversifiée, parce que là c'est intéressant de noter que dans le cas de l'Afghanistan il y avait déjà une agriculture relativement diversifiée en place. Nous connaissons énormément de pays où au contraire au sein des communautés il y a une monoculture qui est insuffisante d'un point de vue nutritionnel, donc nous essayons de promouvoir la multiplication des différentes variétés agricoles, mais en même temps intervenir sur des produits à relativement forte valeur ajoutée, améliorer la qualité pour d'une part les marchés locaux et aussi même parfois les marchés d'exportation. Oui. Il faut vraiment trouver un équilibre et surtout éviter d'aller vers une production unique exclusivement destinée au commerce et surtout exclusivement destinée à l'exportation. Mais il faut que les gens puissent gagner leur vie, qu'ils puissent gagner de l'argent pour pouvoir acheter d'autres produits, pour pouvoir scolariser les enfants et pour pouvoir épargner.
En tout cas, on peut saluer le bel effort de vérité de la part de l'association Solidarité quant au bilan de cette action ponctuelle.
Tout à fait. C'est une bonne analyse et c'est important que les associations soient transparentes sur les résultats de leurs actions.
Olivier Brunstein de l'ONG CARE. Quel est votre rôle au sein de l'organisation ?
Alors, Care France est un des 12 membres du réseau Care International. Ces membres sont présents essentiellement en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Australie, au Canada. De plus en plus, nous faisons en sorte qu'il y ait des membres dans le Sud. Donc, cette année, normalement, nous espérons accueillir en tant que membre à part entière Care Inde, Care Pérou et Care Brésil. Et nous avons vocation à permettre le financement des projets qui sont mis en œuvre du terrain au niveau des bureaux pays, à peu près 70 bureaux pays dans le monde. Et donc qui interviennent sur des projets de développement, sur des projets d'urgence. Nous avons vocation à financer et à appuyer les actions qui sont mises en œuvre sur le terrain. Et ces mêmes financements sont obtenus auprès des particuliers, auprès des fondations, des entreprises et des bailleurs institutionnels tels que la Commission européenne ou le ministère des Affaires étrangères en France.
Alors quels sont les gros dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment ?
Sécurité alimentaire, VIH-SIDA et changement climatique. Mmh.
Demain samedi, le grand bal Care de Deauville, rendez-vous de l'élégance et de la générosité, dit votre communiqué. Le soutien financier des mécènes est indispensable à votre action ?
Oui, bien évidemment. Ce type d'action permet de collecter des fonds qui non seulement vont nous servir à financer certains projets spécifiques, mais qui permettent aussi d'avoir ce que nous appelons les fonds propres. Et les fonds propres sont indispensables à notre action puisque c'est les seuls qui nous permettent d'avoir de la flexibilité. Flexibilité pour répondre à une urgence avant qu'il n'y ait des bailleurs institutionnels qui nous accordent des financements. Flexibilité pour mener des actions de recherche de développement, pour écrire des nouveaux projets, parce que ça, ce n'est pas financé par les bailleurs institutionnels. Et donc, ce genre d'événement est tout à fait important et nous espérons que, comme chaque année, il sera à la hauteur des enjeux.
Vous y serez ?
Je n'y serai pas personnellement, mais notre directeur général y sera, bien évidemment.
Alors, je signale également que vous remettrez à l'issue d'une quinzaine d'expos photos à Perpignan le prix, un prix qui rend hommage aux reporters photographes qui témoignent tout au long de l'année des événements souvent tragiques qui frappent donc les habitants de cette planète. Il nous reste une petite minute. On parlait d'écologie politique tout à l'heure. Vous savez sûrement que le pôle écologique du Parti Socialiste termine ses rencontres d'été aujourd'hui même en prélude à la grande réunion du Parti de La Rochelle. Écologique et politique deviennent inséparables, semble-t-il. Comment vous situez-vous face à cette récupération, peut-être entre guillemets, par les politiques de ce thème porteur qu'est devenu l'écologie ?
On ne peut que s'en féliciter à condition que ce ne soit pas que la récupération et que derrière il y ait une réelle volonté de faire avancer les choses et de faire passer les lois qui vont permettre d'aller dans le sens d'une meilleure prise en compte des enjeux écologiques.
Mmh. Est-ce que ça vous dit de passer sur le terrain politique pour faire avancer justement cette cause ?
C'est indispensable. Nous sommes, en tant qu'organisation internationale, nous sommes parfaitement conscients qu'on ne peut pas faire bouger les choses et lutter contre la pauvreté et contre les grands enjeux de la planète sans aborder le champ politique.
Très bien. Olivier Braunstefer, directeur des programmes de Care France, merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci.
Le site internet de votre organisation, je le rappelle, c'est carefrance.org. Bon courage et à bientôt. On poursuit C'est pas du vent dans un petit peu plus de 3 minutes.